Nous sommes le jeudi 18 septembre, il est 21h et des poussières sur Radio Canus 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Bonsoir Bettina.
Bonsoir.
Comment vas-tu ?
Ben ça va et toi ?
J'ai chaud.
C'est vrai.
J'ai chaud et pas que à cause de l'ambiance dans les rues de Lyon cet après-midi où il y avait quand même pas mal de monde. C'est simple, je me serais cru il y a une semaine. C'était vachement bien. J'espère que vous y étiez. Bettina, donc instigatrice de l'événement Indie Game Lyon, qui va en partie porter cette émission sur ses épaules parce que j'en suis totalement incapable.
Merde.
Mais la personne qui va vraiment être le muscle de cette émission, qui en plus de réaliser l'émission, en plus de porter les sujets, va illuminer cette émission par son sourire et sa... Qui es-tu ? Bonsoir Romain.
Salut Xavier, salut Bettina.
Salut.
Comment ça va ?
Écoute, ça va pas mal. Ça va pas mal, effectivement, une journée agitée. Mais qu'on va terminer avec un sujet qui n'a pas grand-chose à voir.
Oui.
Parce qu'on n'avait pas forcément grand-chose à apporter dans le domaine du jeu. Il y aura peut-être des choses à dire d'ici peu, mais effectivement, tous ces mouvements actuels, on n'a pas... Comme on l'avait fait à une époque quand tu avais suivi la marche des grévistes du jeu vidéo lyonnais à l'époque, en février.
En février dernier, oui.
Là, on n'a pas forcément quelque chose d'autant d'actualité à
non,
à
mais, apporter. Mais de toute façon, ça, le leitmotiv de l'émission reste gros sous lutte sociale et jeux indés. Et là, c'est plutôt le troisième pour c'est aujourd'hui.
Mais alors, est-ce qu'il ne va pas falloir changer le titre, du coup, si on ne peut plus dire indé ?
Ah, bah je sais pas.
C'est une question qu'on va se poser en tout cas.
Moi je sais pas, j'ai pas un événement avec le nom dedans à gérer, tu vois, donc.
C'est vrai.
mais la question en tout cas est intéressante en tant que telle. Enfin, c'est surtout ça dont on va discuter, on en discutera quand ce sera le moment.
Effectivement. Oui. Donc ce soir, on va parler. Du grand concept de l'indé, du jeu indé, du label indé en fait, qui a posé à côté de jeux, à côté de studios, à côté d'éditeurs, et un peu discuter de ce qu'il en est en réalité. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de
classer un petit peu tout ça, hein ? Est-ce qu'il n'y a pas des réflexions à avoir autour de ça ? Parce que c'est un concept effectivement extrêmement vague, comme le disent les auteurs de l'article sur lequel on va beaucoup s'appuyer, tu peux pas demander à 10 personnes différentes qu'est-ce qu'un indé, tu peux avoir 10 réponses globalement différentes. Donc voilà, c'est un petit peu de ça dont on va discuter, sans forcément évidemment avoir une réponse définitive et qui fait office de vérité. Mais la réflexion est intéressante, malgré tout. Et aborder la question sous un autre prisme, peut-être. Ça peut être de simplement diviser triple A et indé,
oui,
qui est la première division. On a eu les double A qui sont venus s'insérer là-dedans, les triple I,
oui,
dont on avait parlé lors
de leur initiative.
Lors de leur initiative, qui est sous la forme d'un showcase, d'une expo, enfin d'une présentation des jeux qui en faisaient partie.
Ouais. J'espère qu'on parlera de quadruple A quand même.
Alors oui, et ça s'arrêtera là parce que comme le rappellent aussi les auteurs de l'article, après ça parle d'andouillettes. Le quintuple A, c'est des andouillettes.
Hein. Oui, voilà.
On est à Lyon quand même.
Tu veux dire que GTA 6 c'est une andouillette ?
Alors, va savoir.
On va en discuter. Ouais. On va en discuter, mais juste avant, on va faire le tour des news récentes des gens qui fabriquent des jeux vidéo sur Lyon et ses alentours. C'est à toi, Bettina.
Il faudrait un jingle. Pardon,
ouais.
Je viens d'y penser.
Mais... Ah ouais, je suis trop pour.
Allez, l'OL.
Non.
Casse-toi. Oui, ok, je regrette.
Ah, tu vois que c'est bien sans.
C'est mieux sans toi, ouais, c'est ce qu'on se disait depuis le début.
Du coup, ce ne sera pas tout à fait récent puisque je vais vous parler d'un jeu qui est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant, en juillet 2024. Un jeu qui a été créé par Arpenteur Studio et les deux personnes qui l'ont cofondé, Adrien Godbert et Alexis Karoff, c'est Dawnmaker. Dawnmaker que vous avez peut-être pu voir à Indie Game Lyon. C'était, je ne sais plus, la 4e édition, je crois. J'ai le doute sur l'édition où ils sont venus.
C'était il y a un... J'allais dire, bah, c'est pas récent.
Non, parce non.
Que je me... c'est, oui, j'aurais dit 2 ans aussi. Ouais.
Peut-être, ouais, je sais plus. Oui, je crois que c'était il y a 2 ans.
Je crois que c'était quand on était sur scène. Donc je dirais il y a 2 ans.
Ouais, c'est ça, possible. Il me semble. Donc c'est un jeu de stratégie solo qui mélange des éléments de jeu de plateau. Les bâtiments sont sous forme de tuiles, en fait, et de deck building. Les cartes et les bâtiments interagissent, donc il faut bien choisir, faut bien les choisir pour créer de puissantes combinaisons. Il faut tirer le meilleur parti de l'espace limité en positionnant ces bâtiments de la manière la plus optimale. Le but, c'est de construire des bâtiments pour notre colonie, obtenir des cartes pour notre deck, générer des ressources et améliorer notre phare central pour débloquer de nouveaux espaces constructibles. Je vous lis un petit synopsis. Dans un monde envahi par un smog toxique, vous êtes le seul à pouvoir rallumer les anciens phares et ramener la lumière et la vie sur le continent perdu. Donc après la sortie du jeu, ce qui est intéressant, c'est que Adrien a écrit un post-mortem du développement de Dawnmaker sur son blog. Donc vous pouvez taper Dawnmaker post-mortem dans votre navigateur préféré et vous tomberez sur son blog, le blog de Adrien Godbert. Mais c'est en anglais cependant, donc voilà, comme je disais hors antenne, je ne suis pas très bonne en anglais. Mais bon, après, il y a des outils de traduction automatique si besoin.
Mais les post-mortems, c'est toujours très intéressant, je trouve.
Oui.
Même quand on n'est pas dans le développement, même quand on est simplement joueur, ça peut un petit peu te faire comprendre quels sont les vrais enjeux, comment est-ce que tu crées ça et les réflexions que tu te fais par rapport à un succès ou alors un demi-succès ou un vrai échec. Tu as beaucoup de choses intéressantes à retirer des lectures.
Le pourquoi du comment de certains choix que tu as pu encenser et qui sont des fois en fait le fruit du hasard. Ou des choix où tu dis, mais c'était chiant, mais en fait, il va t'expliquer que c'était absolument nécessaire par rapport à la marche du projet.
Ou l'inverse. Tu t'es dit, c'est ça le cœur de mon jeu, et en vrai, bah, c'est ça que les gens n'ont pas aimé. Enfin, tu vois, c'est toujours très intéressant, je trouve, post-mortem. J'aime
carrément.
beaucoup l'exercice. Et apparemment, il est assez intéressant et même enrichissant pour les devs et pour les créateurs en général. Enfin, un post-mortem en soi, c'est utile, donc, que ce soit du jeu vidéo, que ce soit n'importe quelle activité art. Créative.
Ben c'est exactement pour ça que je voulais vous en parler, mais je voulais avant quand même redéfinir le mot post-mortem pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas forcément de quoi on parle. Rassurez-vous, personne n'est mort, c'est un exercice qui permet en fait à un studio d'effectuer une analyse rétrospective après la sortie d'un titre pour évaluer ce qui a fonctionné ou à l'inverse ce qui aurait pu être amélioré lors du développement. En gros, le but c'est de tirer des enseignements et de faire le bilan, et donc voilà, comme on vient de le dire, c'est extrêmement intéressant. Et c'est aussi une occasion de faire un partage d'expérience avec d'autres développeurs indés. Je vais continuer d'utiliser le mot.
Je t'en prie.
Donc voilà, c'est très très intéressant. C'est donc pour ça que je voulais vous parler de Dawnmaker ce soir. Le jeu, pour en revenir à lui, il est à 15€. Il est en ce moment même en promo, mais bon, ça se termine demain. Donc si vous nous écoutez en podcast, ce sera certainement trop tard. Sinon, il est dispo dans 2 bundles également, j'ai vu. En parallèle, je sais que Arpenteur Studio travaille sur un nouveau jeu, mais j'ai pas encore d'infos à ce sujet. Peut-être bientôt, je ne sais pas.
Très bien, merci Bettina. Avant qu'on passe au sujet principal, j'aimerais qu'on évoque un événement qui aura lieu samedi soir à l'Élysée. Et oui, on va monter à l'Élysée.
Ah,
exactement.
Merde.
Ah mince. Faut ramener des fourches et des torches.
On va tout cramer. Attends. Je crois que les organisateurs seraient pas très contents si on arrivait qu'on cramait tout.
C'est pas le bon Élysée, arrête.
Il y aura là-bas ce qu'on appelle une playformance. Bettina, est-ce que tu pourrais un peu décrire ce qu'est une playformance et ce qu'on peut trouver dans ce genre d'événement?
Oui, alors je rectifie tout de suite, du coup, c'est pas l'Élysée, c'est bien le théâtre de l'Élysée.
C'est pareil.
À la Guillotière. Ne montez pas à Paris tout de suite. Donc c'est une playformance, c'est une prestation scénique à mi-chemin entre du théâtre et jouer sur scène, jouer à un jeu vidéo sur scène. Après, ce qui est très intéressant, c'est que ça prend des formes très 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 différentes en fonction des personnes qui la font. parce qu'il va y avoir des gens qui vont justement écrire quelque chose de manière un peu théâtrale et d'autres qui vont se servir de ce jeu vidéo pour parler de choses très très personnelles et se livrer totalement avec des choses qui les concernent directement. Ça peut parfois prendre un peu au dépourvu. Je me rappelle qu'il y avait une playformance sur comment il s'appelle ce jeu ? Silent Hill 2, sachant que ce Silent Hill 2 m'a terrifiée quand j'étais petite.
Les personnes, alors s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui disent Silent Hill 2, ça ne m'a pas terrifiée, vous rendez bien compte qu'il y a un souci.
Ce sont peut-être des personnes avec une psychopathie ou je ne sais pas.
Ah ouais, il y a quelque chose. Hein. Parce que voilà. Quel jeu flippant.
Et oui, cette playformance m'a vraiment marquée parce que la personne a parlé de choses très dures qui lui étaient arrivées et j'étais pas prête du tout. Et bon, voilà. Bon, des fois, ils pensent à faire un petit trigger warning avant. Et sinon, après, ça peut prendre des formes vraiment très légères aussi. Ça dépend des gens. Voilà.
Oui, et effectivement, moi j'avais pu assister à une. J'ai assisté à plusieurs performances, de manière générale, ce que j'avais retenu, que c'était un peu un mix entre, je dirais, une conférence gesticulée et ouais. Un let's play, en gros.
Ouais.
Sachant que des fois ils jouent, des fois ils jouent pas, en fait, ça dépend.
Ah, t'en as vu où ils jouaient pas ?
Il y a des fois, c'était une vidéo, en fait.
Ah ouais, j'ai jamais vu.
Une vidéo de personnes en fait qui montraient des parties de leur de gameplay qu'ils avaient eu.
Okay.
Et qui brodaient dessus mais qui jouaient pas forcément en même temps.
OK, OK. Bah toutes celles que j'ai vues c'était joué en live en même temps donc c'est pour ça.
OK. Et non parce que des fois en fait, il y en a qui avaient enregistré une partie et c'était pas commenté, c'était une sorte de commentaire de partie mais légèrement différent que là j'appuie sur le bouton A quoi.
Ok.
Mais de manière générale en fait ce que je trouve intéressant c'est que c'est une manière d'aborder le jeu vidéo qui est quand même très différente, qui est plus logiquement théâtrale,
ouais.
Mais qui peut être aussi intimiste que en fait artistique de façon globale. En fait ça ouvre vraiment sur le fait que le jeu vidéo c'est déjà plusieurs arts en même temps et que tu peux en plus en créer d'autres à partir de là.
Ouais, totalement.
Et donc allez-y, c'est pas très cher, c'est 6,50€.
Et du coup il y a qui sur cette performance?
Il y a Pierre Corbinet, donc ça j'ai bien retenu son nom. Par contre la deuxième personne j'ai pas noté et parce que je sais pas qui c'est malheureusement.
Alors juste pour situer un peu Pierre Corbinet, donc quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail de façon générale. Il a beaucoup écrit sur Wednesdays, donc ce jeu édité par Arte.
Oui, c'est ça.
Qui parle de sujets quand même relativement sérieux et difficiles, qui sont les violences sexuelles intrafamiliales. Il avait aussi participé à l'écriture de The Wreck. Il avait alors, également, pardon.
The Wreck. Alors c'était principalement le Morin pour The Wreck, mais il a un petit peu participé.
C'est
ouais.
Ça.
Il était plus connu pour Enterre-moi mon amour, par contre.
C'est possible, effectivement. Ouais. Et il avait aussi créé un petit jeu qui était dispo sur itch.io, qui s'appelait Bernard Arnault sauve la France, sur le modèle de You Are Jeff Bezos.
Je sais pas si ça vous parle.
Ce jeu, en fait, où en gros, à des moments, on doit décider de ce qu'on fait sur des sujets extrêmement importants, genre est-ce qu'on efface la dette de tous les étudiants, est-ce qu'on sauve les hôpitaux, etc. Avec le pognon de Bernard Arnault, et tu te rendais compte en fait de tout ce qui restait après avoir dépensé tout cet argent pour sauver des trucs extrêmement importants. Aïe. Il lui restait plein de pognon en fait à Bernard Arnault. Et bref, son jeu, donc Bernard Arnault sauve la France, est à la fois rigolo. Et inquiétant, il l'a écrit il y a quelques années maintenant et il est d'autant plus d'actualité.
Moi j'avais beaucoup aimé son boulot sur un jeu qui s'appelle Haven.
Aussi, oui.
Qui est donc un jeu par les gens qui ont fait Fury, j'ai mangé le nom du studio, Game Bakers, je crois. Oui, c'est ça. Par Game Bakers. Et c'est pas si souvent que les jeux vidéo parlent d'amour et en parlent bien. Et celui-là en parle très bien. La deuxième performance sera faite par quelqu'un que je ne connais pas, qui s'appelle Uzo Sastre Fournes, et qui est plutôt une personne qui vient du monde du théâtre et qui fera une performance sur Alba, The Wildlife Adventure.
Ok.
Et je pense qu'en plus, ce type de jeu très tranche de vie, etc., je pense que ça peut donner des choses assez intéressantes parce que tu sais. sais pas trop dans quelle direction ça peut aller. Donc, donc voilà, donc c'est 6,50€. C'est donc au théâtre de l'Élysée, c'est 14 rue de Passe Comblot dans le 7e. Mais honnêtement, c'est à côté de la station de tram. Hein. Faut pas s'embêter. Vous regardez la station
de
tram.
Au niveau de Guillotière, de Saxe Guillotière. Liberté
c'est non, Guillotière.
Guillotière, okay.
C'est Guillotière, vraiment. Le...
À côté du métro, à côté du tram.
Juste à côté. Voilà.
D'accord.
Et donc, ce sera à partir de. Ça commence à 19h30, mais pointez-vous un peu avant, parce qu'en général, les.
Oui, bah, on rentre dans blindé, la salle à 19h30, voilà. Mais oui, ça ouvre. Les portes sont ouvertes à partir 18. De 18h, parce 18, qu'il y a des jeux en libre service, si on veut.
Donc, voilà.
Ok. Donc on est dans les petits rappels, dans les petites informations. Je rappelle que est toujours ouvert pour encore quelques jours, pour 4 jours encore, 4 jours et quelques, le bundle Play for Peace, Games for Palestine, le charity bundle sur itch.io, donc voilà, qui récolte de l'argent pour la UNRWA, donc c'est une agence des Nations Unies, qui récolte donc de l'aide humanitaire directement pour la Palestine et globalement Gaza. Donc voilà, et dans lesquels on peut, pour 8$, donc je crois que c'est un peu plus de 7€, on a un grand nombre de jeux vidéo, de jeux de plateau, de jeux de société, enfin de jeux de rôle également écrits, beaucoup en anglais, mais malgré tout, voilà, le bundle est toujours ouvert pour encore 4 jours et 20 heures. À peu près 5 jours. Voilà, leur objectif était d'atteindre les 200 000$. Ils en sont à 89 000$ aujourd'hui. Il leur reste quelques jours pour faire mieux. Et comme on disait la dernière fois aussi, c'est pas comme un Kickstarter ou comme du financement participatif où ils auront la somme versée uniquement s'ils atteignent l'objectif. L'objectif était autant symbolique que motivationnel. On peu de chances qu'ils l'atteignent, mais malgré tout, chaque dollar, il peut servir. Donc je voulais quand même rappeler que le bundle était toujours ouvert, on en parle depuis 3 semaines, on n'en parlera plus la semaine prochaine parce qu'il sera normalement fermé, mais j'imagine que d'autres initiatives continueront à exister dans le même objectif, dans le domaine du jeu, et on sera là pour en parler.
Oui, certainement.
Oui. Passons à notre sujet principal.
Là, tu me regardes avec des yeux, t'as l'impression que... Vas-y, regarde, tu vois la fausse audion, là ? Elle est là, vas-y, jette-toi dedans.
Attends, j'ai préparé une intro.
Ah merde.
Comme le définit le ministère de l'économie, de l'industrie et
sors
du numérique...
Sors d'ici. Dégage de là.
Les jeux vidéo indépendants aussi, je suis vraiment allé sur le ministère.
Oui, mais c'est pour ça que je te dis de te casser.
Les jeux vidéo indépendants, aussi appelés jeux indés, occupent une place de plus en plus importante dans l'industrie vidéoludique. Contrairement au titre dit AAA, qui sont conçus par d'énormes équipes et disposant de budgets faramineux, les jeux indés se distinguent par le fait qu'ils sont développés par de petites structures, voire par un développeur unique qui dispose de moyens très limités. Et après d'autres choses très intéressantes dites dessus, la caractéristique principale d'un jeu vidéo indépendant réside dans l'autonomie de ses créateurs. Sans la pression d'un grand éditeur, ces développeurs jouent le rôle d'exécutifs, producteurs et jouissent d'une liberté presque totale sur leur sujet.
Alors, c'est pas inintéressant comme définition.
Oui, voilà.
C'est pas inintéressant parce qu'elle est complètement à côté de la plaque non plus.
Hein. Elle n'est pas complètement fausse. Sur la fin, il y a un petit peu l'histoire de l'autonomie, l'indépendance, etc., qui peut être discutée. Qui peut être complètement discuté, parce qu'il existe, comme tu l'avais laissé plus ou moins entendre tout à l'heure, des éditeurs de jeux indés.
Oui, c'est ça.
Donc, même dans le cas des jeux indés, et même dans le cas des développeurs solo qui sortent leurs jeux, l'énorme succès indé de l'année dernière, Balatro, étant un jeu développé par une seule personne, mais qui a un éditeur.
Oui.
Donc, il n'était pas non plus complètement en mode solo. Voilà, effectivement, la définition en soi, on va dire un condensé peut-être de ce qu'on pouvait considérer un consensus, on va dire, sur le sujet. Et qui, voilà, en soi, c'est pas faux, c'est pas inintéressant. Mais le sujet, en tout cas, que je voulais un petit peu aborder aujourd'hui, c'est basé sur, à la base, c'est un article d'Aftermath. Des anciens rédacteurs journalistes de Kotaku, notamment de PC Gamer, etc., de journaux anglophones, qui se sont rassemblés sur un titre réellement donc indépendant lui aussi, un petit peu comme un site qui n'est financé que par ses lecteurs.
Oui.
Pas de publicité, pas ce genre de choses.
Comme en France, il y a eu Origami à peu près sur le même modèle.
Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais effectivement citer comme modèle du même genre. Le même principe, en fait, des anciens d'autres groupes, on va dire, sites un peu plus connus, globalement des anciens de Gamekult.
Et exactement, en fait, voilà, pour resituer un peu Aftermath, c'est pas des gens qui se sont dit, tiens, un jour... j'en ai marre de gagner de l'argent chez Kotaku. Oui. voilà. C'est soit ils se sont fait virer à cause de coupes, soit en fait ils en avaient marre de la direction éditoriale qui allait vers plus de publi-information et qui ne leur permettait pas en fait de parler de sujets dont ils voulaient parler. Et c'est pour ça qu'ils ont créé ce média indépendant financé par ses lecteurs.
C'est ça. Et effectivement, dans le cas de Kotaku, c'était un des points de départ pour certains, effectivement, la direction qu'a pris Kotaku à ce moment-là.
C'est ça.
Au même moment, je crois que Jason Schreier est parti de Kotaku et a trouvé de la place chez Bloomberg.
Oui, c'est un style. En fait, il a trouvé une forme d'indépendance différente.
Exactement. Mais je le rapprocherais avec toute proportion gardier de Chloé Wattier.
Voilà, j'allais dire pareil.
Qui a finalement, qui est dans un journal qui, normalement, n'est pas le sujet principal, le jeu vidéo.
Le Figaro, il s'en tape, hein, sauf quand ça gagne de l'argent.
Voilà, mais du coup, elle a une certaine liberté aussi. T'as l'impression que t'es pas dans le Figaro quand tu lis un peu ses articles.
C'est une des meilleures. En tout cas, c'est une des journalistes les plus intéressantes sur le sujet.
Exactement, et qui a une vraie liberté aussi de ton, ce qui est d'autant plus étonnant quand tu vois la portée que peut avoir le Figaro et la plupart des articles que tu peux trouver dans le Figaro. Que ce soit sur le ton, le fond ou la forme. C'est venu d'un article d'Aftermath qui mettait en lumière donc le travail d'un blog, même plus précisément d'une newsletter sur Substack. On pourra reparler de Substack et des problèmes qu'ils ont avec leur tolérance des newsletters nazis. Mais toujours est-il que c'est un support de newsletter qui est quand même assez plébiscité. Bref, la newsletter en question, elle est réalisée par deux Français, Antoine Meyerowitz et Julie Belzane, qui ont déjà plus ou moins gravité autour du jeu dans certains dans les studios, certains dans des venture capital, donc des capitales d'investissement. Bref, voilà, qui ont déjà un petit peu de connaissances, j'ai envie de dire, du sujet, et qui se sont lancés là-dedans pour nous parler effectivement de comment est-ce qu'on détermine. Pourquoi est-ce qu'on dit que tel jeu est un jeu indépendant, tel jeu un triple A, tel jeu un double A? Et ils se sont posé la question. Alors, comme le rappelle l'article, tout n'est pas parfait dans leur analyse, mais la question, en tout cas, est posée de façon intéressante et permet de discuter de ça. Et c'est un peu de ça dont je voulais parler.
Juste avant que tu parles,
que j'avance dans le sujet,
que tu avances sur le sujet. Je voulais un peu parler du mot indé, parce que là, en fait, on est plus sur essayer de déterminer ce qui fait que c'est indé ou pas. Je voulais un peu qu'on parle ensemble de.
Exactement le sujet de l'article, mais. C'est pas vraiment le sujet de l'article, mais
d'accord.
C'est...
En fait, comme quoi, le mot indé, il est posé comme un saut de qualité souvent sur les, que ce soit sur les jeux. Et je le rapproche, par exemple, moi, j'aime beaucoup le rock ou le pop rock. Et à un moment, on parlait de rock indé ou de rock alternatif.
T'allais à la Fnac, t'avais un rayon indé,
voilà. Et
tu mettais tout ce que tu veux dedans. Hein.
C'est ça. Et que des fois, en fait, t'avais des labels type Parlophone, des trucs qui étaient reliés à EMI, à EMI ou à Sony. Qui sortaient des trucs indés. Et je pense que dans le jeu vidéo, on est arrivé aussi à ce moment-là où, après justement la grande diffusion des indés au début des années 2010, on va dire, d'indés pionniers, hein, les Fez, les Braise, etc., que maintenant, on est arrivé à un point où c'est devenu aussi un outil marketing, même chez des gros, de parler d'indés.
Oui, et puis il y a ce côté un peu élitiste, comme dans le cinéma, avec le cinéma d'auteur, tu vois.
Oui,
tu fais un peu la distinction entre les blockbusters et le cinéma d'auteur. Là, c'est un peu pareil. Enfin, t'essayes en tout cas d'avoir cette image.
Ouais, je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose comme ça dans le nom. Et justement, toi qui organises un événement de jeux indépendants, est-ce que des fois, il y avait une connotation qui était liée au mot indie ou indé que tu as trouvé, ou pour toi, ça a vraiment toujours été naturel?
J'ai pas compris la question, pardon.
Ok, le fait qu'on te parle de jeu indé, est-ce que c'est toujours en opposition à quelque chose ou pas?
Non, non, non. Non, non, j'ai pas l'impression. Non, c'est juste que je me suis intéressée aux gens qui créent du jeu vidéo sur Lyon et que bah là je vais encore parler d'Inigam Lyon et c'est ce que je
non mais je t'ai lancé dessus donc ouais. C'est de ma faute.
Hein, oui, mais là vraiment c'est aussi ça qui est très intéressant en fait dans ton ressenti par rapport à ça aussi.
Pourquoi j'ai fait un événement jeu indépendant, c'est parce que j'ai rencontré autour de moi plein de gens qui créaient des jeux et qui du coup sont indépendants et en fait j'ai créé cet événement parce qu'il manquait de visibilité, que je voulais que ces projets aient un endroit, un espace pour exister et se faire connaître du public directement. Quoi. Donc c'est comme ça qu'est né Indigame Lyon. Du coup, bah, ouais, c'est devenu un événement de jeu indé parce que les gens que je connais sont indés et que je ne suis pas allée chercher. Je n'avais pas l'ambition de faire... un événement avec des gros studios, déjà parce qu'il faut déjà réussir à les contacter et qu'on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur. Enfin, ouais.
Et en fait, ce qui est, que je trouve intéressant, c'est que tu as aussi des interlocuteurs qui interviennent dans Indie Game Lyon. Certes, les jeux sont des jeux en fait de petites factures, que ça soit justement des petits studios, des solo devs ou des étudiants. Par contre, au niveau des intervenants qu'il peut y avoir dans les différentes tables rondes, il peut y avoir des gens qui viennent de très grosses structures.
Oui.
Mais pour toi, en fait, ça ne, y a pas de question de brouiller le message ou quoi que ce soit, en fait.
En tout cas,
tu t'es pas posé cette question-là.
Non. Et c'est vrai qu'au niveau des intervenants, on prend aussi des professionnels de l'industrie tout court, parce que c'est pas parce qu'ils sont pas dans une structure indépendante qu'ils peuvent pas avoir une opinion intéressante. Surtout si on parle d'un métier, de quelque chose de technique, ils sont aptes à en parler, même s'ils sont dans une structure qui est pas indé.
Et d'ailleurs, un truc dont on se rend compte que, enfin. Peu importe le pédigré des personnes qui interviennent, c'est que qu'elles viennent du monde indépendant ou qu'elles viennent du monde beaucoup plus. En fait, le jeu vidéo reste du jeu vidéo, en fait.
Bah ouais.
C'est ça que je trouve intéressant, notamment dans le côté la frontière floue entre ce qui est indé, ce qui est pas indé. Quand tout à l'heure, tu sais, quand on parlait de triple I. Où en fait, c'est des équipes qui commencent à être des équipes de plus de 100-200 personnes qui commencent à faire des jeux vidéo et qui disent on est indépendant. Et justement, comment on juge de l'autonomie, comment on tranche la question de l'éditeur, etc. etc.
Ouais.
C'est ça que je trouve intéressant. Mmh. Et donc, c'est pour ça que... J'imagine que il n'est pas question de trancher la question de façon définitive, mais je trouve ça toujours intéressant comme sujet.
Bah, c'est ça, en fait, parce que du coup, il y a effectivement les termes triple A, double A qui sont beaucoup ressortis, le triple I qu'on a évoqué, et évidemment le mot indé qui venait souvent en solution de secours quand t'as pas d'autre endroit pour le mettre.
Bah, de toute façon, on sait que c'est un gros fourre-tout, c'est de ça dont on va parler justement.
Mais... Ah, complètement, oui, bien sûr. Et du coup, voilà, enfin. Effectivement, les quadruple A, le premier quadruple A, en tout cas déclaré, est un très 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 grande réussite de Cocorico.
Skull and Bones.
Voilà, c'est Ubisoft. Bon, c'est pas Ubisoft en France, mais Ubisoft Singapour, on pourra en reparler. Mais intéressante aussi le développement de Skull and Bones. Mais c'est pas le sujet. Mais voilà, donc qu'est-ce qui rentre dans les double A, qu'est-ce qui rentre dans les triple A et qu'est-ce qui rentrait par défaut finalement dans tout le reste dans la catégorie indé et
c'était quoi leur guide
en fait,
de lecture
donc leur objectif était effectivement d'avoir une base de départ un petit peu plus claire que simplement basée sur des ressentis sur des esprits ce qui pouvait servir souvent pour définir un jeu indé on avait un peu plusieurs caractéristiques différentes que ce soit un petit peu une certaine esthétique.
Oui.
Une certaine vibe indé. On pouvait avoir effectivement, comme tu l'as dit, une liberté financière ou créative, donc avec vraiment une indépendance à ce niveau-là. La taille d'une équipe, ça pouvait aussi avoir de l'importance par rapport à ça. L'intention aussi, faire des jeux pour simplement faire des jeux. Enfin, tu vois, c'est un petit peu cette approche très, très créative et pas du tout commerciale de l'activité. Alors que depuis le début, on parle malgré tout d'industrie. Donc, enfin, l'objectif, malgré tout, quand tu fais des jeux, c'est. En tout cas, quand tu fais des jeux en tant que. De façon professionnelle, c'est malgré tout d'en vivre et du coup de gagner de l'argent avec.
À minima, d'amortir les coûts et au mieux de générer un salaire, quoi.
Bien sûr. Et du coup, il y avait aussi, comme on l'a dit, le fait d'avoir ou non un éditeur qui pouvait servir d'élément de classification. Mais c'est un des éléments justement que dans l'article, il réfute relativement vite et relativement facilement, en partant voilà, du principe que ce que les plus petits projets sont en gros auto-édités à 70%, 75%, mais les plus gros projets, les AAA, ne sont liés à des éditeurs qu'à 25%. Qu'à 75%. Donc tu as, malgré tout, 25% des AAA qui sont complètement en autonomie. On peut parler de CD Projekt, qui est un studio énorme qui fait des jeux sur des années et des années, mais qui sont complètement indépendants.
On peut parler,
de GTA 6.
On peut parler, oui.
Il n'y a pas d'éditeur.
Alors, techniquement, ils font partie de Take Two, mais bon, c'est chez eux, ils font ce qu'ils veulent et ils vous emmerdent.
Il y a un peu de ça, parce que si Take Two existe, c'est aussi grâce à ça.
J'aurais parlé peut-être de Baldur's Gate 3.
J'allais le dire.
Bien sûr.
Ouais. Qui, en termes de taille, maintenant de studio, etc., c'est un truc qui est gigantesque. Quoi.
Spécifiquement pour ce jeu, effectivement, le scope, le nombre de studios, d'intervenants externes, etc., ils ont 6 studios, je crois, quelque chose comme ça, l'Ariane en interne, plus beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur aussi pour participer. Donc, et voilà, on est complètement d'accord que c'est un bon exemple de ça.
Bien sûr.
Du coup, quelle a été leur approche par rapport à ça? Ils ont fait un classement en 4 catégories. 4 catégories qui sont liées finalement à 2 éléments. Au nombre de personnes qui sont dans les crédits du jeu, qui ont participé donc globalement à la masse salariale concernée par
ou en tout cas
jeu.
Qui ont été déclarés dans les crédits du jeu. Quoi.
Exactement.
Parce qu'il y a tout un sujet sur les crédits, sur comment on y est, comment on n'y est pas.
Avec effectivement des vrais scandales sur des gens en fait qui sont partis à qui on a demandé de partir de studio juste avant la fin du développement et qui du coup n'apparaissent pas dans les crédits alors qu'ils ont bossé pendant plusieurs années dessus.
Ouais.
Reparler des gens du studio qui a fait Concorde, qui ont bossé dessus pendant 8 ans, qui finalement n'ont quasiment rien à mettre en face de ces 8 années de travail sur un CV. Ça doit, maintenant que le studio en plus a fermé, qu'ils se sont fait virer. Bref, c'est des vraies questions effectivement sur comment est-ce que tu.
Mais bon, c'est vrai que
tu as une présence.
Mais c'est vrai
dans
que
les crédits d'un jeu.
C'est plus pour des grosses machineries que ce genre de scandale arrive.
Oui, tout à fait. Et ils ont mis ça en face. Là, c'est la première, c'est l'abscisse. Et leur donnée sur leur tableau, c'est la taille du jeu sur ton disque dur. C'est-à-dire que si le jeu fait 100 mégas, 1 giga, 10 gigas, 100 gigas, ces deux éléments-là en fait, qui vont servir d'échelle. Si tu as un jeu qui a été fait par 100 personnes et qui tient sur 5 gigas, il va être à un endroit précis dans le tableau qui sera un classement. C'est un choix, hein, évidemment, qui peut être complètement discuté. Comme tu le disais, par rapport au nombre de personnes, ça exclut toute la partie QA. La partie quality assurance, donc vraiment le travail derrière de vérification de test, etc. du
souvent
jeu. Parce que c'est souvent outsourcé,
souvent
fait
les
à l'extérieur.
Indés mettent toute la partie QA dans les crédits à la fin du jeu, et souvent d'ailleurs les crédits QA sont plus longs que l'équipe des devs.
Souvent je remarque notamment pour des jeux Watch Jedi, les jeux Watch Jedi Game, où en gros en termes de dev, il y a en général, allez, 3 personnes impliquées globalement. Tu as après le truc qui est long, c'est le nombre de gens qui parlent. Et ce qui est encore plus long, c'est les gens qui vérifient.
Ouais.
Voilà.
Mais du coup, voilà, globalement, la façon dont ils ont bossé, c'est effectivement récupérer toutes les données des jeux publiés sur Steam depuis 2006, parce que les données de poids du jeu
sont encore disponibles.
C'est une information publique et disponible. De la même façon que sur, alors ils ont pris la base de données Moby Games, qui reprend les crédits, en tout cas des gens déclarés, comme tu disais, au niveau de la réalisation des jeux. Et du coup, c'est quelque chose de...
Juste un détail, c'est le package téléchargé ou c'est une fois installé?
C'est une bonne question.
Ok. Parce que c'est deux choses différentes.
Oui, mais au final, ça... ça peut poser la question de comment est-ce que tu as optimisé la taille de ton jeu sur le truc. Mais l'idée, je pense, c'est aussi... forcément, les jeux les plus gros, les plus lourds
bien sûr,
ils ont eu un point commun. C'est ce qui prend le plus de place, c'est évidemment tout ce qui est graphisme.
Oui.
Graphisme en très haute qualité, en très haute définition. C'est ça qui prend les centaines de gigas que peuvent te peser un jeu. La musique, même les vidéos, ce genre de trucs, c'est pas tant en vrai. c'est pas si lourd que ça sur un jeu. Et du coup, donc tu as une classification qu'ils ont divisée en quatre parties. Qu'ils ont donc la plus petite, qu'ils ont appelée les K-Games, inspirée du mot
K-Car.
Exactement. Oui. Les K-Car japonais, qui sont les toutes petites voitures japonaises.
J'étais au Japon en octobre-novembre, voilà, et du coup ça me permet de flex. Et effectivement, ces petites voitures carrées.
Voilà. Vraiment, le principe, en fait, le plus petit, la plus petite...
Je dis rien, mais je crève de jalousie depuis tout à l'heure. Mais continuez votre émission, là.
Et effectivement, c'est, comme ils le disent, c'est ce qu'on pourrait relativement facilement faire rentrer dans les solo devs, dans les jeux solo dev, parce que souvent, c'est un développeur solo et des gens qui l'ont aidé à finaliser le truc, etc. Mais comme on le disait tout à l'heure, ça ne veut pas forcément dire des jeux complètement indépendants, sans éditeur, ou pas forcément avec des moyens ou pas. Là, on voit qu'effectivement, il n'y a pas le côté financement dans la question. Okay. Ensuite, on a les MIDI games. Donc, bon, globalement, c'est des jeux moyens, mais qui ne vont pas encore atteindre. C'est des jeux comme Hades, c'est des jeux comme Valheim, avec un nombre de développeurs qui peut aller de, globalement, qui peut dépasser la centaine. Donc, oui. On commence déjà à avoir des vraies structures importantes. Et ensuite, donc les AA, ils ont gardé cette classification AA, AAA pour les deux dernières catégories. Les AA, voilà, c'est là que tu commences à parler de budget en multimillions, enfin en plusieurs millions de budget, des centaines d'artistes avec en même temps des contractuels pour bosser dessus. Globalement, c'est ce qu'on disait, Clair-Obscur rentre dans cette catégorie-là. Puisqu'il y a plusieurs centaines de personnes recensées dans les crédits.
C'est un
jeu effectivement qui prend, je crois, qui dépasse les. Dans leurs calculs, qui atteint quasiment les 100 gigas sur le disque 2.
C'est comme. Je te parlais de Kena Bridge of Spirit, on a à peu près dans le même style, en fait, qui a été promu comme un jeu plutôt indépendant. En tout cas, dans sa manière de faire, vu que c'était un petit studio, et quand on se rend compte, en fait, et qu'on regarde un peu ce qu'il y a au crédit, en fait, effectivement, il y a plein de studios d'animation asiatiques qui ont été mis à contribution pour, en fait, le boulot pour la 3D. C'est ce qui explique pourquoi le jeu, déjà, est beau à crever. Enfin, il est super beau, super mignon, etc., et tout ça, et que ça marche, mais parce que il y a des choses que, même si tu as la force créative, elle est sur un nombre réduit de personnes, au bout d'un moment, il faut, entre guillemets, du muscle.
Il faut des gens. Si tu veux que ton jeu sorte dans moins de 15 ans, oui.
Voilà, il faut que des gens fassent, quoi, tout simplement.
Oui, du coup, pour revenir sur Clair Obscur, il y a beaucoup de gens au crédit, mais parce qu'il y a. Du coup, il y a les doublins. Les doubleurs, les comédiens de doublage, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça fait du monde aussi. Il y a toute la partie liée à l'éditeur, il y a le QA, il y a tout ça. Parce que l'équipe de dev, on sait qu'ils sont une trentaine.
L'équipe de dev du studio Sandfall à Montpellier.
Oui.
Derrière, ils ont quand même pas mal de monde a participé au truc sur des créations visuelles, sur des etc. Ils n'ont pas tout fait en interne. Okay. Ils ont eu des contractuels. C'était un petit peu la discussion qu'on avait et qui avait été reprise d'ailleurs de voler par quand Geoff Keighley avait dit justement
que c'est une petite équipe.
C'était une équipe de 30 personnes qui avait fait un jeu incroyable. Et c'était techniquement faux parce que même dans les crédits, en fait, ils citaient les studios avec lesquels ils ont travaillé pour leur apporter tout un support. Du coup, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'ils le classent dans cette catégorie-là, c'est simplement parce qu'il y a effectivement des studios globalement en Asie, à différents endroits, qui ont bossé sur le jeu aussi.
Après, en fait, justement, les coûts sont entre guillemets différents. C'est pas pareil quand tu emploies des gens pendant un certain temps et qui font partie de ton studio, et quand tu demandes une prestation où tu dis, voilà, c'est temps pour que vous fassiez tel truc.
Tout à fait.
Donc c'est pour ça que
c'est pas les mêmes
coûts non plus.
Non, mais c'est sûr, c'est pas la même ligne dans ton budget.
Bien sûr.
La masse salariale, c'est pas du tout la même chose que des coûts de dépenses pour
de prestations évidemment.
Évidemment. Donc voilà, c'est un peu la base de leur logique, et ça leur permet effectivement de discuter cette différence entre les jeux. Effectivement, on parlait de Cyberpunk 2077, les Assassin's Creed, globalement, qui sont des jeux complètement auto-édités, mais qui sont des AAA, parce qu'il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui ont bossé dessus, et c'est des jeux avec énormément d'ambition, etc. Parce que là, quand on parle donc des AAA, c'est là qu'il n'y a plus de limite. Ça peut être plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions de budget de création. On va pas revenir sur GTA, qui qui devrait taper effectivement un certain score dans le, à ce niveau-là. Mais tu as effectivement aussi des petits jeux, des tout petits jeux qui sont malgré tout pas complètement indépendants, puisqu'on pourrait ressortir le fait qu'ils ont des éditeurs par-dessus.
Oui, mais de toute façon,
donc c'est toujours cette différence. C'est pour ça en fait qu'ils voulaient sortir de cette différence et de cet élément de classification. T'es pas un indé parce que t'as un éditeur ou etc. Donc ils voulaient sortir du terme indé en proposant ces deux nouvelles catégories qui sont le Kei et le Midi, qui sont discutables
À une époque, c'était vrai que indé signifiait auto-édité, mais ça fait bien longtemps que c'est plus le cas en fait.
Oui, complètement.
Mais moi, je dirais même depuis le fameux, c'était le Summer of Arcade de Xbox. Quand en gros, quand les Braids, les Fez, etc., sont tous arrivés sur console en fait. Au début des années 2010, ils sont tous arrivés en même temps avec les Minecraft, etc. Et ben en gros, il y avait déjà des propositions de distribution et en soi presque d'édition déjà de la part de Microsoft. Mmh. Ouais. Et déjà, on pouvait se dire, alors, oui, ce sont des indés dans le sens où ils sont, alors clairement, enfin, quand tu lis comment ont été faits ces jeux-là, clairement, c'était dans un garage et des gens qui leur jetaient des cailloux. Enfin, j'exagère à peine, tu vois. Parce que c'était.
Ils leur jetaient des sandwichs.
Ah ouais, non, mais c'était.
C'est bon, t'as bossé, tu peux t'en rendre.
Non, mais ces premiers jeux, honnêtement, il y a un truc où c'était des guerriers, des guerrières qui ont fait ça.
Les gens
vraiment.
Dans le garage, ouais, complètement.
Non, vraiment.
Et oui, mais certains, ils étaient un peu chelous dans leur tête aussi.
Oui, mais c'est pour ça qu'ils étaient dans des garages, justement. C'était mieux comme ça.
Fallait mieux pas qu'ils sortent, c'est ça?
C'était mieux comme ça. Non, jouez à mon jeu. Non, regardez pas le monsieur. Mais en fait, c'est qu'il y avait déjà, en fait, à partir du moment où il y a l'enjeu de la distribution. Tu vois ce que je veux dire.
Mais justement, c'est une bonne, c'est une bonne remarque parce que c'est un, comment dire, le modèle du jeu Kei, donc le petit jeu avec petite équipe, etc., a complètement explosé depuis 2017, au moment où Steam est passé du système c'est nous qu'on choisit au système Greenlight, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir suffisamment d'amis pour que ton jeu soit greenlighté, donc autorisé sur Steam, ce qui est très très vite devenu ta capacité à créer des faux comptes Steam pour valider ton jeu. Du coup, quand ils ont fini par s'en rendre compte, ils ont dit vas-y, c'est bon, on arrête les conneries. Maintenant, il suffit de mettre 100$ pour avoir une page Steam. N'importe qui met 100 balles et qui fait ça selon un minimum de règles aussi, il y a un minimum de présentation, de règles à respecter.
Et c'est grâce à ça que Steam était... C'est tellement joli à voir, des beaux jeux qui sont là tous les mois.
Oui, mais et si tu vas sur la page principale de Steam, tu les verras jamais. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas du tout mis en avant, parce que c'est de la merde et que ce n'est pas ça que Steam met en avant, parce qu'ils n'ont pas intérêt à mettre ça en avant, parce qu'ils ont intérêt à ce que les gens achètent des jeux.
Moi, je recherche donc plus de fonctionnement de Steam, ça me fait peur.
Bah, le fonctionnement de Steam n'est pas du tout fait pour mettre ces jeux-là en avant. Et ils ne sont jamais mis en avant, et d'ailleurs, ils ne se vendent pas.
Bah non.
Donc, par contre, ils sont de plus en plus nombreux, effectivement. Et tu as le nombre de jeux de cette taille-là, de ce scope-là, a augmenté multiplié par 16 depuis 2017. Globalement, c'est 7 sorties sur 10
en fait,
qui sont dans cette catégorie
de
taille.
Le truc, c'est qu'en gros, t'investis 100 plus, et tu regardes le nombre de jeux qui doit se vendre pour que tu retombes sur tes pattes. Voilà quoi.
Bah, c'est un pari. Mais quoi. Simplement, juste, si tu comptes effectivement juste le prix de l'achat de la page, c'est rien du tout. Si tu prends derrière les années ou les mois que t'as bossé sur le jeu, etc., avoir.
Oulala, non, mais moi je parle de gens qui piquent des assets.
Alors, le fait d'acheter des assets ou de récupérer des assets gratuits, j'appelle pas ça piquer des assets. Et faire ton jeu avec ça, j'appelle pas ça piquer des assets. Ça fait pas forcément des jeux très intéressants, mais des gens qui fabriquent des assets et qui les proposent gratuitement l'Unity Store ou sur l'Unreal Store, c'est une façon qui permet à des développeurs de proposer des trucs. Tu peux les retravailler, tu peux, etc. Tu peux faire effectivement un jeu très fainéant dans le sens où tu ne fais que reprendre ça et les coller ensemble. C'est, à mon avis, de ça dont tu veux parler.
Oui.
Mais le principe même d'acheter des assets ou alors de réutiliser des assets proposés gratuitement à la communauté par des créateurs graphistes, etc., en soi, je ne vois pas le problème.
Moi, je ne parlais pas de ça, mais ok.
Oui, mais toi, tu parles de piquer des assets. À partir du moment où tu voles quelque chose, tu risques effectivement de te faire... Donc c'est pas ce que font la plupart des gens. C'est pas ce que font tous ces jeux. C'est pas du tout ce que font tous ces jeux. Quand ils récupèrent des trucs créés pour justement être réutilisés dans le cadre d'un Unreal Engine, d'un Unity, etc. C'est pas du vol. Ils les réutilisent un peu n'importe comment, sans forcément que ça donne quelque chose d'intéressant, mais c'est pas du vol.
Ah mais toi tu mets de la morale dessus, moi j'en mets pas. Hein.
Moi je mets du vol.
Moi je mets de la fainéantise, c'est pas pareil.
Oui, mais c'est pour ça que je te parle. Toi tu parles de piquer les assets, moi je suis pas d'accord.
Question de vocabulaire. Okay. Ça reste des grosses feignasses.
Ah, peut-être. Effectivement. Et c'est souvent... d'ailleurs, ça se voit, hein, les jeunes, ces jeux ne se vendent pas. Mmh. Ils représentent toujours aussi peu, entre guillemets, de la... du pognon qui est brassé sur Steam, c'est moins de 25% globalement
bien sûr.
Des ventes. Et ces chiffres-là sont complètement vampirisés par des jeux comme Vampire Survivor, comme Balatro, comme des énormes succès de toutes petites équipes, de toutes petites structures, voire des solo devs comme les deux jeux que j'ai cités. Mais globalement, oui, c'est, ils sont extrêmement peu à faire de l'argent. Ces jeux de 7 de ce scope-là. Et en général, oui, tu as quelques contre-exemples, quelques exemples que tu vas mettre derrière comme regardez, c'est possible de faire un jeu indé avec 3 francs 6 sous, parce qu'il y en a certains qui vont tout cartonner avec une idée, un minimum de qualité de réalisation et beaucoup de chance.
Oui, donc, non, mais c'est, pour moi, c'est le même principe que regardez ce jeune défavorisé, il y arrive, pourquoi vous n'y arrivez pas tous, quoi.
C'est souvent effectivement le risque que tu peux avoir à mettre en avant trop ce genre de truc, même si, comme on le disait, comme on l'a déjà discuté, tu as de plus en plus finalement ceux qui ont eu du succès, qui en sont conscients, en fait, et qui en parlent. Tu as Among Us, Inner Sloth, le studio qui a créé Among Us, qui a sorti son jeu en 2018 avant qu'il explose réellement 2 ans plus tard, parce que pendant 2 ans, tout le monde s'en foutait complètement de Among Us. Mais tout d'un coup, il y a un truc qui est arrivé, le Covid, et les gens se sont trouvés à jouer chez eux. Il y a un ou deux streamers qui ont lancé le truc, qui ont lancé le machin, et ça a explosé, ça a complètement pété.
T'es en train de dire que le Covid a été créé en Suède, c'est ça?
Alors, l'industrie du jeu vidéo a quand même pas mal bénéficié de tout ça. À mon avis, ils ont en bisbille avec Big Pharma. Non, c'est ça que tu voulais m'entendre dire.
Merci. Merci beaucoup.
Non, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, tu as Inner Sloth qui est conscient de la chance qu'ils ont eue, parce qu'ils n'en ont pas eu du tout au début et qu'ils sont conscients de comment ça s'est passé, le fait que maintenant ils peuvent nager dans le pognon, et qui a donc créé Outer Sloth comme studio d'édition, enfin, éditeur. Financeurs, c'est-à-dire que eux n'ont même pas, ils ont décidé, ils ont dit ok, toi ton projet il me plaît, je te donne de l'argent, démerde-toi avec, je n'ai pas mon mot à dire dessus, c'est leur modèle. D'une certaine façon, ils ont juste dit bah le pognon on va le distribuer en espérant que d'autres aient autant de chance que nous. Tu as Poncle, le créateur donc Luca Galante, le créateur de Vampire Survivor, qui a commencé aussi lui à éditer des jeux, il en a déjà édité 2 maintenant, le deuxième vient de sortir je crois. Donc voilà, tu as un petit peu cette ce mouvement-là aussi qui est un peu qui existe quoi, les tout petits qui savent d'où ils viennent et qui essayent de redistribuer. Balatro, le créateur dont on ne sait toujours pas le vrai nom d'ailleurs, qui a dit que il avait prévu de rajouter du contenu, mais que en fait il le fera l'année prochaine parce qu'il a pas envie de cruncher, il a autre chose à faire. Voilà, ça aussi c'est des messages qui sont pas inintéressants, même si bah, évidemment lui il a la liberté de le faire, il a la liberté financière, mais c'est intéressant que ce soit un message qui soit très très relayé aujourd'hui.
Oui, bah c'est important que ces gens qui ont maintenant qui sont entre guillemets des personnalités publiques, enfin du coup du fait de leur succès, prennent la parole pour diffuser ce genre de message. Oui, c'est important.
Ouais, et c'est vachement intéressant enfin de revenir là-dessus, ouais, effectivement. Et c'est et voilà, donc ils ont un petit peu aussi on va dire fait un petit une petite classification en reprenant leur classification, du coup la façon de classer les jeux. Tu vois que la plupart des jeux qui sont donc dans la toute petite catégorie, les K-Games, sont en moyenne à vendus entre 5 et 6 euros. C'est les jeux moyens sont vendus entre 15 et 20 balles. Et derrière, si tu commences effectivement à taper les double A, là tu peux tranquillement atteindre les 40, 50. Et les triple A maintenant, effectivement, on a dépassé les... C'est encore 60 pour certains, pour la plupart qui sont en vente, parce qu'ils sont sortis il y a quelques temps, ils sont maintenant 60. Ouais. Mais les nouveaux qui sortent, c'est 70, voire 80 pour certains.
Et dans cette classification, Silksong, c'est une anomalie ou ça rentre dedans?
Silksong, c'est 3 personnes en tant que dev.
Et en poids, parce que si on prend les...
Et en poids, c'est pas grand-chose, effectivement. Le jeu n'est pas... Je pense que le jeu fait quelques gigas à tout casser.
On serait là-dedans à peu près, du coup on serait dans le 15.
Je suis en train de regarder.
Parce qu'il y avait toute la question de est-ce qu'il est vendu trop cher ou pas assez cher ou je sais pas quoi.
Pour moi, il serait effectivement dans les K Games. Ouais. Il va faire partie de ceux qui sont sont les anomalies en termes de revenus qui vont vraiment faire basculer le truc un petit peu dans une. Donc oui, il est complètement dans cette catégorie.
Ok.
Avec malgré son prix qui effectivement sort du prix des jeux habituels de cette taille-là. Mais encore une fois, c'est une moyenne sur des milliers. Parce qu'encore une fois,
oui, bien sûr, mais c'était juste pour avoir une base statistique
c'est
par rapport à...
Ouais. Silksong, ça va être un des éléments qui va falloir classer là-dedans. Ils sont effectivement complètement indés dans le sens où ils n'ont pas d'éditeur. Ils sont passés par un Kickstarter, on va dire, pour le premier. Mais c'était la seule, finalement, contrainte qu'ils avaient. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont mis 7 ans à faire le deuxième, parce qu'ils n'avaient absolument aucune contrainte. À part celle, effectivement, de contenter ceux qui attendaient que le jeu sorte.
Ouais. Mais de se contenter eux-mêmes aussi, de sortir un jeu suffisamment qualitatif à la hauteur de leurs espérances, quoi.
C'est ça. Et du coup, voilà, ils terminent effectivement en parlant de... souvent, la masse salariale te permet des choses. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de gens, tu peux faire des open world, tu peux faire des jeux très ambitieux en termes de contenu, des jeux 3D, etc. Beaucoup plus facilement que si tu es une toute petite équipe. C'est pour ça qu'ils disent, par exemple, que tu n'as jamais quasiment d'open world en 2D, en plateforme, etc. Parce que c'est pas du tout le genre, finalement. C'est pas du tout ça correspond pas. En fait, moyen que tu peux mettre dedans, nombre de personnes qui bossent dessus, etc. Donc voilà, ils ont fait un petite comparaison des genres et des différents tags qu'on peut appliquer à ces trucs-là. Genre les jeux open world, les jeux en vue à la troisième personne, ce genre de jeux sont très très grandes, enfin très très majoritairement des jeux double voire triple A, beaucoup plus que des jeux indés en nombre également. Et avec une petite, un petit changement actuellement quand même, une petite remarque qu'ils ont faite, effectivement, tu avais la plupart du temps des jeux multijoueurs qui étaient pas réservés, mais qui étaient quand même la chasse gardée des gros jeux, des jeux à gros budget et à grosses ambitions. Déjà parce que souvent, il fallait avoir les moyens d'entretenir les serveurs, ouais, etc.
Bien sûr.
Donc ça demandait déjà un minimum de revenus.
Quand tu dis multijoueur, c'est multijoueur en ligne.
Multijoueur en ligne, absolument.
Ouais, parce que des jeux multijoueurs, oui. Couch Gaming, j'ai l'impression même maintenant, c'est presque plus réservé à des plus petites équipes de créer des trucs de couch gaming plus que chez les gros, quoi.
Oui, c'est sûr. C'est sûr que, en fait, oui, c'est souvent possible parce que ils ont déjà toute la structure pour faire en ligne. Du coup, c'est souvent pour ça qu'ils se disent, vas-y, on va quand même le proposer en couch gaming. Mais malgré tout, il y a une petite évolution qui est complètement causée par quelques énormes succès qu'on pourrait citer. On pourrait citer les Phasmo, on pourrait citer Peak, on pourrait citer ce genre de petits jeux, petites équipes. Hein. Peak, c'est 6 ou 7 personnes de 2 studios différents en termes vraiment de corps, le cœur des développeurs.
Lethal Company, il était tout seul.
Lethal Company, ouais. Absolument. Absolument, oui, des mêmes personnes, enfin une partie des mêmes personnes qui ont fait Peak, on a Content Warning, vraiment ouais. Tous ces jeux faits pour le multi, orientés vraiment directement dessus, et qui ont des succès assez massifs et qui durent dans le temps. Qui durent dans le temps parce qu'ils sont encore extrêmement joués, encore aujourd'hui, quelques mois, voire même quelques années pour certains après leur sortie. Donc c'est un mouvement qui est relativement récent malgré tout, ce shift globalement des Kay et des Midi jeux qui sont capables aujourd'hui de faire des jeux multi beaucoup plus que où avant c'était vraiment réservé à ceux qui avaient les moyens de te créer des fois des serveurs persistants. On peut penser au MMO par rapport à ça, enfin voilà, où il faut de toute façon un grand nombre de enfin beaucoup de revenus réguliers pour les supporter, quoi. Donc dans certains cas, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle des jeux ont été annulés ou arrêtés. On parlait de The Crew qui avait été effectivement complètement abandonné, fermé par Ubisoft relativement récemment. C'était aussi pour éviter d'entretenir des serveurs qui étaient quasiment plus joués que par quelques personnes. C'était un peu l'idée.
Pour avoir eu du pourquoi d'un insider, c'est pas que pour ça.
Non, mais...
C'est une histoire de contrat avec des
Oui, puis ils avaient aussi leur nouvelle version qui sortait. Enfin,
oui, mais justement,
aussi le shift vers les nouveaux.
Ils ont créé les nouvelles versions à cause du contrat qu'ils avaient avec les entreprises qui font des voitures et qui
pour
des histoires d'image.
D'accord. Mais c'est vrai que on peut penser à, j'en sais rien, moi, effectivement, j'allais dire Concorde, encore une fois, qui a été complètement arrêté alors que techniquement le jeu était prêt, il n'y avait plus besoin de bosser dessus, il y avait juste à entretenir les serveurs. C'est ça qu'ils ont aussi tout balancé en même temps, quoi. Ça fait partie des différents... on en a quand même quelques exemples de jeux qui étaient orientés multi, compétitifs ou pas d'ailleurs, qui n'existent plus aujourd'hui. Dans certains cas, c'était ils ont permis, je crois que c'était le jeu de ballot prisonnier là, j'ai oublié.
Ah, le machin Champions ans,
ouais,
sur.
Je sais plus ce que c'était le
oui,
truc,
oui. Mais... Bah, alors, tu seras content de savoir que ça existe encore.
Oui, parce qu'en fait, ils ont distribué gratuitement et distribué le truc à ceux qui le voulaient, en fait, pour faire des serveurs privés.
C'est ça.
Alors que. Et c'était justement une des discussions qu'il y avait autour de toute la discussion qui est toujours en cours, d'ailleurs, autour de Stop Killing Games. Quand vous décidez d'arrêter le support d'un jeu et de ne le rendre plus disponible, bah donnez au moins les moyens aux gens qui veulent continuer à y jouer, d'y jouer en solo de leur côté. Et c'est d'ailleurs toute la discussion qui va avec les jeux qui nécessitent une connexion Internet obligatoire pour te connecter à des serveurs qui peut-être un jour disparaîtront. On avait parlé de Top Spin il n'y a pas si longtemps. On peut parler de Skate, qui est sorti il y a 2 jours, Skate Point, qui est sorti il y a 2-3 jours, et qui se fait défoncer sur Steam aussi pour cette raison. Parce qu'il nécessite une connexion permanente.
Même en solo.
Même pour jouer à des jeux solo, et avec tout le risque qu'un jour Electronic Arts il décide de tout fermer.
Il est 21h59.
Presque.
Est-ce que on doit encore utiliser le mot indé, mon cher Romain?
En soi, je vois pas le... La discussion était intéressante sur qu'est-ce que tu définis comme étant un jeu indé, etc. Et c'est intéressant de revenir sur les discours qui pouvaient les limiter à jeu édité par quelqu'un, jeu d'une équipe, une petite équipe, voire des solo devs, jeu de telle ou telle ampleur. Ça révolutionne pas ça globalement. Ce qu'on faisait rentrer dans un indé rentre aujourd'hui dans les quais et les midi globalement. Dans ces catégories-là qu'ils ont définies. Mais malgré tout, la discussion en soi n'est pas inintéressante sur qu'est-ce qu'un jeu indé, comment est-ce que tu peux le... Et puis finalement, comment est-ce qu'il se place dans l'industrie, dans les ventes, quelle est leur présence finalement, et même leur réalité économique, encore une fois, qui est assez floue, parce qu'elle est souvent brouillée par des énormes succès qui viennent brouiller les chiffres, parce qu'ils vont faire pencher la balance de façon complètement disproportionnée. Sur un ou deux titres, alors que t'en as des milliers derrière qui n'ont même pas obtenu une dizaine de reviews sur Steam, donc ça veut dire même pas une centaine de ventes. Enfin, et encore, j'imagine pour certains, 100 ventes, ce serait déjà une belle réussite. Même si, voilà, c'est une question aussi d'objectif. Tous les jeux indés n'ont pas forcément comme objectif de se vendre par centaines de milliers. Certains le font, comme on l'avait déjà dit, pour la création. Aussi, c'est pas complètement faux, hein, que ce qu'il disait, le faire des jeux pour le fait de faire des jeux, le hobby, le loisir, etc. C'est comme tous les gens qui font de la musique en mode loisir. Si un jour ça pète, tant mieux, mais ben, on en connaît des groupes qui font que des reprises et qui vont juste se faire plaisir très très régulièrement juste pour jouer de la musique. Je pense que tu as la même,
ouais.
Tu as la même activité, tu as le même rapport finalement à la création dans le jeu vidéo. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens aussi que ça leur fait très plaisir de refaire des jeux plus ou moins qui ont déjà existé, des choses qu'ils ont aimées, etc. et qui veulent juste se faire plaisir en faisant quelque chose qu'ils aiment.
Non, mais vous ne répondez pas à la question. Vous noyez le poisson. Est-ce que vous condamnez les viols? Attends.
Vous condamnez les indés. Non, c'est pas ça. Je pense que le terme existe toujours et existera toujours,
mais évidemment,
parce qu'il est nécessaire.
De toute façon, maintenant, il est dans le langage.
C'est ça.
Exactement.
C'est trop dur de s'en séparer.
Exactement.
Et sachant, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, en fait, c'est vrai qu'il va être plus associé à certains types de jeux, à une certaine esthétique.
Ouais, c'est ce qu'on disait au début. Oui. Voilà,
plus qu'à qui le fait, par exemple.
Oui, oui.
Je retiens toujours l'exemple de Dave the Diver. Mmh. Qui est en fait un jeu qui a été fait par un studio qui s'appelle Nexon. Quand tu regardes un peu.
Pas une division de Nexon.
Pas une division de Nexon. Ouais. Tu regardes Nexon, c'est la 12e boîte, la 12e plus grosse boîte de jeux vidéo au monde.
Oui,
et en fait, toute l'esthétique et toute la communication autour de David Zayer dit oh, c'est un super petit jeu indé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, complètement. Ouais.
Et ça a été calculé comme ça.
De toute façon, le sujet a maintes fois été discuté à l'occasion d'Indie Game Lounge, justement, qu'est-ce qu'un jeu indé, comment on le définit. Enfin, tu l'as déjà dit, donc je vais juste répéter ce qu'on dit depuis le début, mais c'est que oui, les frontières sont assez floues et il y a plein de critères qui rentrent en compte et des critères qui, selon moi, sont les principaux, mais qu'on ne saura jamais précisément. Enfin, pour moi, un jeu indé, c'est principalement par son mode de création et sa philosophie qu'il est indé, mais comme on l'a déjà dit, il y a des éditeurs spécialisés dans les jeux indés. On ne saura jamais à quel point ces éditeurs ont un impact ou pas sur la production.
Bien sûr.
Voilà, il y aura toujours un flou, quoi qu'il arrive. À part certains éditeurs, enfin, il y a Abiding Bridge qui, pour le coup, celui-là, justement, ne veut pas influencer, enfin, va donner des conseils, mais ne veut pas. Oui, influencer directement la production d'un jeu, bref, c'est genre une exception en fait. Parce que
là où par exemple, enfin anciennement, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais Annapurna va être très, très force de proposition sur le jeu, en disant tiens, on va proposer ça, on va mettre ça, rajoute ça.
Bah, tu vois, force de proposition, c'est ok, mais à quel point l'éditeur va dire ben non, si tu ne me changes pas ton gameplay, en fait, moi je veux.
Ou alors dès le départ, je signe ton truc si tu me mets tel truc ou si tu vas dans telle direction.
Bah,
et je terminerai avec un élément. On parle de marketing aussi. Le marketing jeu indé, encore une fois, le marketing autour de Clair Obscur en mode c'est une petite équipe, etc. On l'a beaucoup entendu. On avait entendu Geoff Keighley nous sortir des dingueries du genre c'est un dev solo avec 9 de ses potes qui font un jeu. Voilà. Donc il y a vraiment aussi cette mise en avant comme si c'était une qualité en soi du jeu indé. Et on avait eu cette discussion avec Manor Lords, donc qui est un énorme succès de Wooded Horse et de Slavic Magic ou un truc dans le genre, le nom du studio, qui à la base est une personne, mais qui a beaucoup de contractuels. En fait, il a eu, je crois, 5 ou 6 personnes qui ont bossé avec lui sur différents aspects du jeu et qui avait été repris de volée par... les gens qui font Farthest Frontier et qui font les Grim Dawn, donc voilà, c'était des jeux aussi qui avaient eu leur succès en Diablo-like, et qui le mec en fait avait dit ouais mais regardez, vous les mettez en avant comme étant un jeu d'un développeur solo, alors qu'en fait non, parce qu'il lui-même l'a toujours dit, en fait le développeur a toujours dit qu'il avait bossé avec des gens pour faire son jeu, et mais ça fait partie d'un narratif, etc. Alors nous, on est 7, mais on l'a toujours dit comme ça. Et du coup, on n'est jamais venu nous mettre en avant en mode, regardez ce tout petit studio d'une personne qui réussit à faire un truc incroyable.
Il y a toujours donc, cette culture dans le jeu vidéo
surtout
du créateur star, de la créatrice star.
Ouais.
Chez Ubisoft, ils sont bien au courant de ça. Et ça pose des problèmes aussi bien d'un point de vue de comment on market les choses et surtout de comment, en fait, les choses se développent et comment on croit que les choses se développent. Que souvent, il y a cette conception qui fait que, tiens, un jeu, c'est l'émanation d'une personne.
Ouais, t'as beaucoup ce truc-là, et encore une fois, vendu comme une qualité en tant que telle, et comme raison de s'intéresser au produit, parce que c'est un jeu indé, comme tu le disais, pour une question d'esthétique, pour une question d'intention, d'approche, de façon de
radicalité.
Aussi, parfois, et donc des fois de nouveauté, parce que c'est souvent dans cette direction-là que viennent les prise de risque.
Bien sûr, les
mécaniques qui sont adoptées ensuite dans les AAA en général ont commencé par être testées et popularisées dans des jeux indés, évidemment.
Ok. Non, mais complètement. Mais du coup, non, ça n'élimine pas l'intérêt du terme en lui-même, même indé. Mais je trouve que c'est une discussion pas inintéressante sur à quel moment tu situes le point de départ, où tu situes le point d'arrivée. À partir duquel, et je trouve que la masse salariale n'est pas un mauvais point de départ, parce qu'il implique des revenus, il implique des moyens financiers ou du financement extérieur ou ce genre de choses, et effectivement derrière la taille du jeu sur ton disque, qui est l'autre truc, c'est souvent une volonté de graphisme photoréaliste, ou en tout cas d'utiliser par exemple l'Unreal Engine 5 qui te crée des graphismes de haute qualité, du coup qui prennent moins de place, donc voilà, c'est aussi c'est pas suffisant, évidemment,
sachant que l'Unreal Engine 5 de base, pour le payer, c'est pas donné non plus, quoi.
Alors si, parce que c'est justement une de leurs volontés, de si ton jeu est petit et jusqu'à je crois que c'est jusqu'à 1 million de revenus, tu ne payes rien.
Oui, c'est ça.
Donc enfin, c'était aussi un des arguments de Tim Sweeney pour mettre en avant son moteur, ce qui est pas complètement idiot d'ailleurs en soi, qui d'ailleurs t'avais un bonus supplémentaire de réduction de ce que te prend l'Epic Game Store si ton jeu est fait avec l'Unreal Engine. Encore une façon d'inciter les gens à faire des jeux avec leur moteur et les vendre sur leur magasin. Ça ne marche toujours pas parce que les gens n'achètent toujours pas sur le Unreal Engine, mais
sur l'Epic Game Store.
Mais voilà, ça va être le moment.
Il est temps. Il faut partir maintenant, monsieur.
Vous faire partir.
Oui,
très bien.
On s'en va.
Allez, merci. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup, Bettina.
Merci, Bettina.
À la semaine prochaine. On parle de trucs et sûrement indé.
C'est possible.
Oui.
Des bisous.
Bonne soirée.
Salut.